Les grands titres de ce dimanche, la Russie demande à la Grande-Bretagne de rappeler encore plus de ses diplomates. Journée plus calme hier autour de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les manifestations de vendredi, je rappelle, avaient fait 16 morts et plus de 1400 blessés. La déroute de l'équipe australienne de cricket lors du premier innings du quatrième test match en Afrique du Sud. La Russie demande à la Grande-Bretagne de rappeler encore 50 diplomates. Le Kremlin a Moscou plutôt a donné à Londres un mois pour que les diplomates quittent la Russie. Londres étudie encore une requête de Moscou de rendre visite à Yulia Skripal, la fille de l'ex-double agent qui tous deux ont été empoisonnés et qui sont toujours à l'hôpital en Grande-Bretagne. Et puis les Australiens qui voyagent en Russie priaient d'être vigilants par le ministère australien des Affaires étrangères. Je rappelle que l'Australie a expulsé deux diplomates russes cette semaine. Et puis la Russie demande une explication officielle sur la perquisition d'un avion russe à Londres. Les Britanniques disent que c'était une opération routine et l'avion a ensuite continué son trajet. Le pilote russe déclare qu'il n'a eu aucun préavis sur les fouilles à bord de son avion.
They looked around for 2-3 minutes and left the aircraft saying thank you. They didn't provide any inspection certificates, any reasons for inspection, nothing. I wasn't able to observe their actions. According to our rules, every inspector should be escorted by cabin attendants. This is simply not acceptable.
Voilà le pilote russe. Une journée plus calme hier autour de la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Vendredi, je rappelle, une manifestation palestinienne s'est soldée par la mort de 16 personnes et plus de 1400 blessés. Reportage Marine Vlaovic pour RFI.
Ils étaient des milliers aux quatre coins de la bande de Gaza à assister aujourd'hui aux funérailles d'une dizaine de Palestiniens tués hier par les soldats israéliens lors du premier rassemblement de la marche du retour. Et lors de ces cortèges funéraires, les Gazaouis ont laissé exploser leur colère et leur incompréhension en dénonçant un usage excessif de la force par l'armée. Un usage de la force qui a sans doute dissuadé les manifestants de revenir en masse à la frontière. Il n'était que quelques centaines cet après-midi à s'aventurer le long de la ligne de séparation. Une frontière toujours protégée par des tireurs d'élite de l'armée israélienne et qui est désormais le principal point de tension entre Israël et le Hamas, alors que ce mouvement de la marche du retour est prévu pour durer 6 semaines jusqu'au 15 mai, date qui marque pour les Palestiniens la Nakba, la catastrophe en arabe, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël il y a 70 ans, qui a poussé des milliers d'entre eux sur les routes.
Marine Vlaovic pour RFI. Le président américain Donald Trump déclare, je cite, que les Américains vont partir de Syrie très vite, fin de citation, déclaration qui date de jeudi mais qui continue à créer la confusion. Explication de Toufik Benaïssouch pour RFI.
On va quitter la Syrie très vite, vraiment très bientôt. Laissons les autres s'en occuper, a dit le président américain à plusieurs reprises au cours d'un discours dans l'Ohio. Des déclarations en complète contradiction avec ce qu'affirmait à la mi-janvier son ex-secrétaire d'État. Dans un discours sur la stratégie américaine en Syrie, Rex Tillerson, en effet, avait affirmé que l'armée américaine, qui a déployé près de 2000 hommes sur place, resterait pour contrer l'influence iranienne en Syrie. Interrogé sur la portée des propos présidentiels, la porte-parole du département d'État n'a pas été en mesure de préciser les intentions américaines. La déclaration de Donald Trump contredit également les propos du nouveau secrétaire d'État américain, John Bolton, qu'il a nommé récemment. Ce dernier ultra-conservateur est un des très proches du président américain. Or, pour John Bolton, contrer l'influence de l'Iran en Syrie est une obsession. Des propos enfin inaudibles ou incompréhensibles, alors que Washington tente d'établir des bases actuellement dans le nord de la Syrie. Enfin, pas moins de 4 responsables des départements d'État, de la Défense et de la CIA se sont déclarés très surpris par les propos de Donald Trump.
Toufik Benaïssouch pour RFI. Le pape François a présidé la veillée pascale hier dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a parlé du sens de la résurrection du Christ pour les chrétiens. Reportage Éric Selenc pour RFI.
Certains auraient pu attendre que le pape François évoque l'enfer, lui à qui le journal italien La Repubblica a attribué cette semaine des propos selon lesquels, justement, l'enfer n'existe pas. Des propos rapidement démentis par le Vatican selon lesquels il s'agissait du fruit de la reconstruction du journaliste. Rien de tout cela dans l'homélie du pape dans la basilique Saint-Pierre ce samedi soir. François a plutôt rappelé que pour les chrétiens, la résurrection de Jésus était la plus grande annonce que l'histoire ait jamais pu contenir en son sein. Le pape a expliqué que l'annonce de cette résurrection soutenait l'espérance des chrétiens et la transformait en geste concret de charité. Célébrer Pâques signifie croire de nouveau que Dieu fait irruption dans nos histoires, a également expliqué le souverain pontife, qui au cours de cette veillée a baptisé 7 adultes venant de 5 pays différents, des visages qui veulent montrer le caractère universel de l'Église et qui seront présents ce dimanche place Saint-Pierre pour écouter le message pascal du pape François et recevoir sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde.
Éric Selinck pour RFI. En Australie, Mark Coleridge, l'archevêque anglican de Brisbane, a parlé de Jésus-Christ, de la résurrection, toujours d'actualité selon lui.
We don't really know what happened when he rose from the dead. We don't know the facts. And that's the way God wants it. He doesn't want us scratching our head and wondering what happened way back then, because the resurrection is always and everywhere. It's woven into the fabric of human experience. It's very much part of your life and it's part of mine.
L'archevêque anglican de Brisbane. Les blocages dans quelques universités de France ce week-end suite aux incidents à la faculté de droit de Montpellier la semaine dernière avec des étudiants délogés d'un amphithéâtre par un groupuscule d'extrême droite. Les étudiants avaient pris possession des lieux pour protester contre la réforme de l'université. Voyons la situation à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris avec Aline Botin pour RFI.
Une grille fermée sur laquelle flotte une banderole, fac occupée, fac bloquée. Depuis lundi, les étudiants siègent dans les locaux de la rue Tolbiac. Ils protestent contre la loi qui prévoit la sélection à l'entrée en université comme Juliette, étudiante de deuxième année.
Il y a des lycées de banlieue qui sont un peu plus compliqués, des lycées de ZEP, où c'est des gens qui ont des moins bonnes notes, juste pas parce qu'ils sont plus idiots, mais parce qu'ils ont moins de chance à la maison. Et nous, on n'est pas pour creuser les inégalités sociales.
Depuis le début du blocage, l'administration ferait pression sur les étudiants selon Juliette. Elle ne souhaite pas communiquer le nombre de bloqueurs, de peur qu'elles s'en servent contre eux.
Les rapports avec l'administration se sont un peu tendus, parce que jeudi matin, on a revoté le blocage jusqu'à mardi. Hier, ils ont fermé administrativement la fac. Ils ont coupé l'électricité dans les amphis et donc évidemment on dénonce cette répression administrative.
Les étudiants craignent aussi une situation comparable à celle de Montpellier.
La nuit, nous on met en place des tours de garde à 8 personnes pour surveiller tout autour de la faculté, surtout qu'il y a eu des messages de menaces sur certains forums en ligne. Évidemment on est vigilant, mais je dirais pas qu'on vit dans la peur non plus.
Mardi prochain, le mouvement pourrait être reconduit. Les étudiants mobilisés appellent d'ailleurs à manifester ce même jour aux côtés des fonctionnaires.
Aline Botin pour RFI. Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles devraient avoir lieu en RDC fin de 2018. Le portrait de Félix Tshisekedi avec Patient Aligodi pour RFI.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a connu qu'un seul parti politique. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, il accède à la tête de la cellule de l'UDPS de Leuven en Belgique à l'âge de 30 ans, fonction qu'il occupe de 1993 à 1996. C'est sans surprise qu'il sera élu député national en 2011 en Mbuji-Mayi, fief naturel de son père. Suivant les mots d'ordre de son parti, il ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Les grandes fonctions au sein du parti, il va les occuper dès 2008 quand il sera nommé secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, poste qu'il va occuper avant d'être désigné comme secrétaire général adjoint en charge de questions politiques. Après la mort de son père et la réorganisation du rassemblement de l'opposition, il sera porté à la tête de cette plateforme politique en mars 2017. Et une année plus tard, il succédera à nouveau à son père, mais cette fois-ci comme président de l'UDPS. Son élection a été saluée par les grandes figures de l'opposition comme Moïse Katumbi, Eve Bazaïba, Freddy Matungulu et Délice Essanga.
Reportage de Patient Aligodi pour RFI. Malala Yousafzai, la prix Nobel de la paix de 2014, est arrivée hier dans sa vallée natale de Swat pour la première fois depuis l'attentat taliban qui avait failli lui coûter la vie en 2012. Son portrait avec Marie Lecoq pour RFI.
D'abord inconnue dans sa ville natale Mingora, au Pakistan, c'est à l'âge de 11 ans que Malala se fait connaître du grand public. Sous le pseudonyme de Gul Makai, la jeune fille raconte sa vie quotidienne d'écolière sur un blog. Elle y dénonce l'action des talibans qui imposent la charia et détruisent des centaines d'établissements scolaires dans la vallée de Swat. Quelques mois plus tard, sa réelle identité est révélée. Elle devient alors la cible de menaces régulières de la part des talibans qui voient d'un très mauvais œil son combat. Le 9 octobre 2012, trois hommes pénètrent dans le bus scolaire où se trouve l'adolescente. Malala reçoit une balle en pleine tête. Elle est alors évacuée en urgence vers un hôpital de Birmingham en Grande-Bretagne. Depuis, Malala Yousafzai ne cesse d'être propulsée en icône mondiale de la lutte contre l'extrémisme et du droit des femmes à l'éducation. En 2014, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, Malala Yousafzai étudie à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. La jeune femme de 20 ans aimerait se lancer dans une carrière politique pour changer l'avenir du Pakistan. Elle souhaiterait rendre l'éducation obligatoire dans son pays, un pays dont elle n'avait pas foulé le sol depuis l'attentat de 2012.
Marie Lecoq pour RFI. En Australie, à nouveau, les primes d'assurance privée augmentent dès ce dimanche 1er avril en moyenne de 4%, soit une augmentation entre 100 et 200 dollars sur une année. Catherine King, la porte-parole du Labour, a déclaré sur l'ABC ce matin que le gouvernement doit empêcher les compagnies d'assurance de profiter de leurs clients.
They frankly haven't been prepared to stand up to the private health insurance industry and say, you are putting profits before the care of patients, you're putting profits before the value of products that people are getting, and I think it's time that the government actually stood up to them and said, no, enough is enough.
Catherine King, la porte-parole du Labour en matière des questions de santé. Les officiers qui protègent les passagers dans les transports publics dans le Victoria, les PSO, Protective Service Officers, auront les mêmes pouvoirs que ceux de la police. Ils pourront arrêter des personnes qui ont violé la liberté conditionnelle, chercher de la drogue ou des armes sur des personnes sans un mandat. La déroute de l'équipe australienne de cricket lors du premier innings du quatrième test match contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a marqué 488 runs et les Australiens ont marqué 110 runs pour la perte de 6 wickets sans les stars Steve Smith et David Warner suspendus après la saga de la semaine sur la balle truquée lors du troisième test match. Le nouveau capitaine des Australiens, Tim Payne, veut changer la culture au sein de l'équipe et il a demandé à ses joueurs de serrer la main des adversaires avant le match.
I've actually been watching with the Super Sport. There's a lot of soccer on. And I thought, I noticed that they do that every game. And I just thought, well, cricket's the gentleman's game. And I thought it's something that I spoke to our players about bringing in. It's not something we're going to do every test match, but I think it's not a bad way to start a test series. So it's something that we'll probably look to use going forward just to, I think it's just a good show of sportsmanship and respect.
Tim Payne, le nouveau capitaine de l'équipe australienne de cricket. Coup d'œil météo pour ce dimanche de Pâques en Australie. Perth maximal de 27 degrés. Adélaïde 27, Melbourne 26, Hobart 22, Canberra 29, Sydney 28, Brisbane 27, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 37 degrés. Rappel des grands titres de ce journal. La Russie demande à la Grande-Bretagne de rappeler encore plus de ses diplomates. Journée plus calme hier autour de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les manifestations de vendredi avaient fait 16 morts et plus de 1400 blessés. Fin du journal et merci de rester avec nous.